Derrière chaque objet, il y a des gens qui réfléchissent à ça, il y a une conception, il y a un produit qui va être mis sur le marché. Et ça, c'est essentiel de se dire que ça, tout commence là.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un invité un peu spécial puisqu'il s'agit de Romain Pillard, qui va nous raconter un peu son parcours, mais qui a eu, ces derniers mois, on peut le dire, une super aventure puisqu'il a participé à la Route du Rhum. Donc on va pouvoir en parler, mais déjà Romain, bienvenue, je suis super content de te recevoir aujourd'hui.
Ouais, bonjour à tous, merci Brieux de me recevoir.
C'est moi, je suis super content parce qu'on en a parlé un petit peu avant l'entretien, mais je t'ai relancé pas mal de fois, mais t'as été pas mal occupé ces derniers mois, c'est bien normal. Mais surtout, on va pouvoir discuter un petit peu de ton parcours, voir un petit peu tout ce que tu... Comment t'en es venu à l'économie circulaire, parce que t'as justement... parler d'économie circulaire pendant la Route du Rhum, mais ça c'est relativement rare. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que j'en entendais parler pendant un événement sportif. En tout cas, déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, faire un petit peu ton parcours depuis le début finalement.
Ah, ça va être long. Donc je suis Romain Pillard, j'ai 43 ans, je suis marié, père de deux garçons de 11 et 13 ans, et j'ai un parcours d'entrepreneur et je suis également navigateur. Donc j'ai toujours été passionné de voile et j'ai créé une agence de marketing sportif, EOL, spécialisée dans la voile, aussi un peu sur la montagne. Je travaille avec mon épouse Aurélie et donc on a créé l'agence en 2003 et moi j'ai navigué auparavant comme professionnel en solitaire sur des épreuves comme la solitaire du Figaro, qu'on appelle le championnat de France de course au large en solitaire. Et puis comme équipier sur des gros bateaux avec des gens, avec des skippers connus comme Loïc Perron, Yvan Bourgnon, Hélène MacArthur, voilà, des gens comme ça. Et donc j'ai toujours continué à naviguer malgré mon occupation professionnelle. Et puis il y a quelques années, donc ça fait deux ans et demi, bientôt trois, qu'on a mis en place ce projet d'économie circulaire autour de l'histoire du bateau qui est l'ancien bateau d'Hélène MacArthur, justement, on va en parler. C'est un trimaran de course au large de 23 mètres qu'elle avait fait construire, mis à l'eau en 2003 en Australie, afin de battre le record autour du monde en solitaire. Voilà, donc c'était un record. Et donc ce bateau ne naviguait plus depuis plusieurs années, depuis plus de 6 ans, et on l'a remis. Donc le bateau il naviguait plus et il était en assez mauvais état.
Par curiosité, il était stocké où ? Enfin, comment tu stockes un bateau comme ça de 23 mètres ?
Il était à Brest sur un quai du port de commerce, dans un coin non visible. Bon, bref. Voilà. Donc il n'était plus utilisé. Il n'a pas été bien entretenu. Il n'a pas été entretenu du tout. Le matériel était mal stocké. Et donc, on l'a trouvé dans un état pas terrible. Et on s'est dit, alors connaissant ce bateau et la façon dont il avait été construit, on savait que la structure était très bonne, carbone, etc. Donc c'est un bateau sain. Mais il y avait quand même beaucoup de boulot et pas que de la cosmétique. Donc c'était un pari à faire et on s'est dit, que ce bateau méritait une seconde vie, qu'on pouvait vraiment faire quelque chose d'intéressant avec ce bateau, le refaire naviguer, même s'il n'était pas au niveau des trimarans les plus rapides, on pouvait quand même le faire naviguer. Et donc, en ayant en tête, ce qui est un peu notre philosophie, une ouverture internationale, aller naviguer plus loin à l'étranger, en solitaire, en équipage, sur des courses, sur des records, des choses comme ça. Donc l'idée c'était pas forcément de se mesurer aux cinq gros trimarans qui existent en France et en Bretagne particulièrement, entre qui j'ai couru sur la route du Rhum, justement.
Parce que ça, justement, bah, on peut en parler tout de suite, finalement, dans ta catégorie, qui est donc les
Ouais,
ultimes,
c'est
si je ne me
ça, c'est
trompe
ça.
pas, vous étiez pas si
Des
nombreux,
six
en fait,
bateaux,
à
ouais, il y
partir.
avait six bateaux.
Et donc, mais les ultimes sont, enfin, si, de ce que j'essaie, hein, de ce que je sais sur cette catégorie, donc c'est les plus rapides, c'est les plus développés en termes de technologie,
Ouais, c'est
quoi.
ça. C'est les plus gros trimarans qui font et qui mesurent à partir de voilà, tous les bateaux, tous les trimarans ou catamarans d'ailleurs, mais il y a plus de cata parce que les trimarans sont plus rapides et plus safe à partir de 23 mètres justement de la taille de mon bateau. Donc le mien est un petit ultime voilà et je me bats contre des bateaux qui sont entre 30 et 33 mètres.
Oui, d'accord.
Donc
Mais et justement, les ultimes sont aussi développés à flux tendu, on va dire, vraiment pile pour des compétitions en plus.
ouais, là on est dans la pure technologie, donc c'est vraiment voilà celui qui trouvera, j'allais dire le plus gros budget, qui sera construire le dernier bateau, voilà avec les dernières études technologiques, etc. C'est-à-dire c'est comme une écurie de Formule 1. Hein. Tant qu'on peut avancer technologiquement, faire évoluer la voiture ou en construire une nouvelle, eh ben on le fait quoi. Voilà. Donc eux sont dans cet esprit-là, donc avec des sponsors comme Massif, Banque Populaire et autres. Et nous, c'est pas du tout. On n'est pas d'une part dans cet esprit, on n'est pas du tout sur leur budget, parce que eux, effectivement, on parle de budget de 3, 4, 5 millions d'euros par an, quoi. Voilà.
D'accord.
Et moi, je suis très, très, très loin de ça. On a mis en place ce projet pour d'abord refaire naviguer le bateau, donc il y avait une certaine philosophie autour du bateau. Et puis après est arrivé, donc ça c'était je disais, il y a au printemps, il y a quasiment 3 ans. Puis est arrivé l'idée, la route du Rhum. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait un super projet pour lancer et faire connaître notre campagne Use It Again. Ça serait top d'aller faire la route du Rhum. Et c'est aussi un défi personnel, évidemment. Voilà, que j'avais en tête. Mais donc voilà, donc on est dans le défi personnel, sans objectif sportif par rapport à la concurrence, mais avec un objectif sportif raisonnable par rapport au bateau, à moi, etc. Qui suis, même si j'ai beaucoup navigué en multicoque, parce que c'était ma première transat en solitaire sur ces bateaux-là. Donc voilà, donc c'était important d'avoir un bateau qui soit adapté à ce défi-là, à cette aventure-là, et qui reste raisonnable en termes de budget et autres. Donc tout ça s'est mis en place courant donc l'année dernière, donc en 2018, avec notamment donc d'une part la création du fonds de dotation Use It Again, qui est pour la promotion de l'économie circulaire. Et puis l'arrivée de notre sponsor Remade, donc Remade, leader européen du reconditionnement d'iPhone. Donc ça c'était vachement bien parce que ça avait du sens. On choisit pas ses sponsors, hein,
Bien sûr.
mais en l'occurrence là il y en avait un avec qui ça matchait parfaitement. Donc c'était top. On avait les mêmes valeurs, la même envie de faire connaître l'économie circulaire. Et d'ailleurs ils auraient pu choisir que le bateau s'appelle simplement Remade, et ils m'ont proposé de garder le nom de Use It Again, donc de notre projet, de notre campagne d'économie circulaire.
Bah, limite, ce qui est assez rigolo en l'occurrence, c'est que Use It Again, c'est presque un slogan potentiel pour Remade,
Exactement.
mais.
Voilà. Mais d'ailleurs, à tel point qu'on s'est posé la question avec eux, je leur ai dit, bah moi, c'était mon côté marketing comme qui ressortait. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes très clair avec ça? Est-ce que ça vous va? Parce que nous, on avait un anglais, donc on avait choisi un nom international en anglais. Eux, la boîte s'appelle Remade parce qu'à l'origine, elle s'appelait Remade in France. Donc bon, elle est simplifiée par Remade. Et effectivement, comme tu dis, ça peut tout à fait être une baseline. Voilà, Remade, Use It Again, quoi. Ça va complètement dedans. Donc fallait pas que ça leur porte préjudice pour la marque et autres, mais ils étaient tout à fait à l'aise avec ça et conscients. Donc il n'y avait pas de problème. Et c'était le principal, le plus important, parce qu'ils ont une vraie conscience industrielle et derrière ça, effectivement, on va dire philosophique par rapport à l'économie circulaire. Ils veulent œuvrer pour l'économie circulaire véritablement. Donc c'est un business, ils le font bien, ils investissent durablement dans des outils de production, ce que ne font pas la concurrence. Donc c'est vraiment intéressant. Je les ai rencontrés toutes leurs équipes dans les usines et autres. Et c'est vraiment chouette parce que en fait, ils sont rentrés dans un pan de l'industrie, tout en travaillant en économie circulaire. Avec ce reconditionnement, et donc c'est vraiment quelque chose qui nous correspondait bien, qui correspondait bien au projet, à nos valeurs. Donc on était très en phase et d'ailleurs ça a bien matché évidemment entre nous et puis avec les médias et autres, on a beaucoup parlé. Donc voilà.
Justement, est-ce que tu peux, enfin tu as commencé à le faire, mais finir de bien décrire Remade, parce que effectivement ils sont sur une activité qui est quand même hyper spécifique mais qui a beaucoup de sens.
Ouais, c'est ça. Alors, donc, effectivement, Remade, ils ont, c'est intéressant parce que d'ailleurs, le fondateur, Mathieu Millet, a créé cette boîte. Lui, il est rentré comme apprenti dans une boîte, qui faisait de la réparation d'appareils électroniques. Et puis aujourd'hui, voilà, il a racheté cette boîte qui avait fait faillite. Ils étaient que neuf. Et puis, il a investi pour faire de la réparation de plus que de la réparation, du reconditionnement d'iPhone.
Oui, tout à fait.
Puisqu'aujourd'hui, on achète un iPhone Remade dans le commerce, en grande surface, sur le net, etc. Donc, c'est une vraie marque. Donc, c'est vraiment intéressant. Marketingment parlant, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de co-branding associé. Et puis, effectivement, bah, comme je disais, il y a une logique d'investissement par rapport à leur industrie. Donc, d'outils de production parce que c'est un marché, en fait, c'est un vrai marché. Eux, ils rachètent des iPhones en gros et en stock à des opérateurs et autres dans le monde entier. Donc, quand ils en achètent, c'est pas 50, mais c'est plutôt 2000 ou 5000. Et ils les remettent dans un état parfait, neuf. Et de temps en temps, certaines pièces sont même, disent-ils, meilleures que les pièces d'origine. Donc, non, mais il y a un vrai souci. C'est vrai j'ai eu la chance de visiter leurs usines, leurs lignes de production, et c'est hyper intéressant, quoi. C'est-à-dire la pièce est totalement désossée, totalement revue, et il sort un produit d'extrême qualité. Donc,
et ce qui est dingue en plus, c'est que c'est un savoir-faire qui est quasi unique au monde finalement, quoi.
Ouais, exactement. Donc ils sont vachement connus. D'ailleurs, j'ai rencontré un type perso des gens de chez Apple récemment en Europe et qui connaissent très bien ça c'est un autre souci entre eux, mais qui connaissent très bien la marque, la boîte Remade. Et effectivement, ouais, c'est ils sont réputés, ils ont des super produits. Et c'est vrai que bah voilà, ils ont réussi à rentrer justement c'est le parfait exemple de l'économie circulaire, quoi. Voilà, il y avait une faille, quoi, pas il y a une faille, mais sur le marché il existait effectivement un besoin finalement de reconditionner de ces iPhones qui par millions étaient dans les fonds de tiroir ou allaient à la déchetterie ou au recyclage, etc. Et puis là, l'idée, c'est de leur redonner une deuxième vie à l'état neuf. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis derrière, toute la notion effectivement de recyclage sur laquelle ils travaillent. Voilà, et ça va venir, je crois, par la suite.
Mais effectivement, c'est… tu disais, Mathieu, j'ai mémoire d'une enquête. Voilà, il faudra vraiment que je l'interview aussi pour le podcast. Je pense que ça va être un super invité parce qu'effectivement, il a une histoire assez incroyable. Et effectivement, j'ai entendu qu'Apple zioutait pas mal sur Remade parce que je crois qu'il y a une partie des savoir-faire dont ils sont un peu jaloux. Et je crois que ça les énerve un peu parce qu'il faut quand même savoir que je crois que c'est Tim Cook, dans sa lettre aux actionnaires, se plaignait du fait que les gens réparaient de plus en plus leurs téléphones, enfin leurs iPhones, et donc achetaient aussi de plus en plus du reconditionné parce que ça fait un impact sur ses marges, évidemment, enfin sur ses ventes en tout cas.
Ah ouais.
Et donc, ouais, c'est assez incroyable.
Ouais, tout à fait. Ouais, non, exactement. Voilà, et c'est sûr qu'ils sont quelque part un peu en bisbille, mais en même temps, Apple aujourd'hui est hors la loi en France par rapport à voilà à la durée de vie. Au fait de pas pouvoir effectivement changer des pièces détachées et autres. Donc c'est sûr qu'avant de, je sais pas si vous avez déjà essayé de désosser un iPhone, mais il faut s'amuser, il faut avoir 40 tournevis différents, etc.
Bah, je change la batterie de mes MacBooks, mais c'est déjà l'enfer. Ouais.
Alors que jusqu'à il y a quelques éditions de MacBook, on pouvait les changer nous-mêmes, mais là, voilà. Donc, aujourd'hui, ils sont plus du tout. Ce qui est assez intéressant, parce que ce business-là, finalement, de Remade, montre que la marque d'origine, Apple, est quelque part n'est plus dans l'air du temps. Voilà, et ne correspond plus aux attentes des consommateurs. Je pense qu'il y a, d'un côté, il y a le beau produit qui est Apple, et c'est très bien, et je suis utilisateur de ces produits-là. C'est tout un environnement qui plaît à beaucoup de monde. Mais d'un autre côté, ils vont, je pense, lasser une partie de leurs consommateurs à ne faire aucun effort, voire s'entêter dans cette économie qu'on peut appeler linéaire, quoi, en fait, avec leurs produits. Et donc c'est intéressant quoi d'avoir effectivement des nouvelles marques, des nouvelles boîtes, comme des nouvelles activités comme Remade le fait pour les iPhones, pour justement augmenter considérablement la durée de vie des produits et voilà, et trouver une issue à ces produits qui avaient une durée de vie de 3, 5 ans.
Ouais, t'es encore généreux là, en plus 3-5 ans, Alain. Mais ce qui est assez incroyable en plus, c'est que c'est encore une nouvelle démonstration que la réutilisation, le reconditionnement, c'est vraiment nettement plus vertueux, déjà économiquement, que le recyclage, d'autant plus quand c'est pas conçu pour être recyclé. On sait qu'il n'y a aucun téléphone sur Terre qui est là avec des matériaux recyclés, quoi.
Ouais, exactement, exactement. Donc, je pense que c'est effectivement une très belle étape de l'économie circulaire, parce que bon, après, la boucle de la circularité n'est pas totalement bouclée, mais ça avance bien. Et effectivement, il y a, voilà, à partir du moment où on peut avoir chaque composant des produits bien distincts, bah, il va falloir travailler sur les composants et puis les rendre de plus en plus recyclables par la suite et travailler, on en parlait auparavant, dès la conception, dès le design des produits pour que on reste voilà en circuit fermé quoi, ça va être l'objectif. Et je pense que ça c'est, il y a des étapes qui sont faites par les industriels et faut absolument encourager toutes ces initiatives. Ça c'est clair que c'est hyper intéressant.
Ah oui, surtout quand on se rend compte que c'est plus intéressant d'un point de vue économique et en plus aussi d'un point de vue environnemental. Donc, je veux dire, ne pas le
Exactement.
faire aujourd'hui, c'est un non-sens, quoi.
Oui, exactement. Et ça rejoint notre philosophie dans le projet Use It Again. C'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse dans l'économie circulaire, c'est vraiment les deux, quoi. C'est le côté économique et circulaire, environnemental. Et c'est, voilà, comme je dis tout le temps, l'économie circulaire, c'est pas un concept de doux rêveur, baba cool, 70s. Au contraire, c'est des gens qui veulent faire avancer le business, puisque de toute façon, sans business, il n'y aura pas de profit, pas d'emploi, etc. Bon, à part faire l'histoire, mais ça, je crois beaucoup à ça. Et de toute façon, c'est le propre de l'homme d'avancer dans ses projets. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement changer un peu, changer même radicalement, pas un peu, radicalement nos modes de fonctionnement pour trouver, voilà, se creuser la tête, trouver les mécanismes pour créer de nouveaux business. Donc effectivement, beaucoup de boîtes sont en pleine transformation ou doivent l'être ou prennent conscience qu'elles doivent se transformer. Et là, il n'y a pas de temps à perdre et c'est vraiment l'objectif de Use It Again, d'être influenceur sur cette action-là.
Et alors justement, enfin tu l'as évoqué rapidement, mais le déclic pour, comment t'en es venu à l'économie circulaire? Parce que finalement, tu avais une activité, enfin tu as plusieurs activités, mais en tout cas, celle qui semble être l'activité principale, c'est Spray Etching Management, peut-être.
Ouais, notre agence Eole et après il y a Spray Yachting Management aussi. Alors Spray c'est une boîte de gestion de projet,
Ouais.
voilà, qui propose à des propriétaires de faire construire des bateaux, voilà, des one-off comme on dit, des bateaux uniques, voilà, des bateaux sportifs, luxueux, etc. Et là effectivement on est chef de projet donc pour répondre aux besoins du client et l'accompagner dans ce. Ouais. Donc ça c'est une activité un peu en dents de scie parce que selon les projets ça prend beaucoup de temps, plus ou moins.
Oui, et puis c'est pas des clients que tu vas croiser à tous les coins de rue.
Non, exactement, voilà. Donc, on a quelques millions à mettre dans un bateau. Bon, ouais, je côtoie pas ces gens-là tous les jours.
Je vois. Et donc voilà, comment on en vient à se dire, mais putain, mais oui, comment t'en viens à connaître l'économie circulaire et faire le lien avec tes activités finalement?
Donc voilà, donc ouais, on a parlé de cette activité-là. Après, j'ai une activité de marketing sportif, donc tout ce qui est marketing communication. Je suis effectivement, bah, par mon activité de navigant marin, bah, je suis très sensible au milieu maritime, bien sûr. Quoi, bien sûr. Non, d'ailleurs, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est quelque chose que j'ai toujours bien eu en tête. Et depuis pas mal d'années, on a créé au sein de l'agence un grand événement de voile qui s'appelle le Tour de Belle-Île. C'était il y a 10 ans, c'est la plus grande course de voile en France, c'est un grand programme. Et donc je voulais vraiment on voulait sur cet événement apporter une touche environnementale très forte, quoi, de sensibilisation, voilà, la plus forte possible, parce que on trouve aussi que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de consommateurs, on va dire, qui viennent, qui font leurs courses, qui ont des bateaux, qui louent des bateaux et tout, et puis finalement se soucient assez peu de notre environnement. Donc on s'est dit, tiens, qu'on allait vraiment faire quelque chose. Donc c'est venu comme ça. Et puis on a travaillé avec des fondations, avec Bloom, avec Tara Expedition pendant plusieurs années pour faire connaître leur action. Et puis est arrivé Use It Again.
Alors attends, juste pour ceux qui sont pas forcément familiers avec tous, genre Bloom, est-ce que tu peux nous présenter rapidement?
Bloom, pardon, c'est une fondation qui œuvre pour la défense, la protection des fonds marins et notamment les techniques de pêche abusive. Pêche électrique.
C'est le gros sujet de Bloom en ce moment, effectivement. Ouais.
Voilà, exactement. Donc, il fait beaucoup de lobby à la Commission européenne, puisque tout se décide là-bas, et combat activement et a de beaux succès en ce moment, justement, parce que la pêche électrique vient d'être abolie, normalement, à partir de 2021, mais c'est quelque chose voilà, qui défonce toutes les espèces animales sous-marines. Donc, c'est vraiment tout ça pour un type de pêche. Donc c'est un gros scandale.
Principalement utilisé par les chalutiers néerlandais en mer du Nord notamment.
Ouais, ouais exactement, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais bon, il y en a d'autres. Et puis voilà. Et puis après, il y a tous ceux qui vont racler les fonds sous-marins. Pareil pour capturer une seule espèce et tout défoncer, la faune, la flore. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'abus de pêche, d'abus dans la pêche industrielle. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc eux œuvrent pour cela chez Bloom. Puis il y a Tara Expedition, qui est une fondation bien connue aussi, qui eux sont plus dans l'analyse. Ils ont tourné une goélette autour du monde depuis plusieurs années avec des scientifiques reconnus, donc pour voilà analyser beaucoup de choses sur la faune, la flore, la fonte des glaces, etc. Donc on a mis en avant aussi leur travail et puis voilà et donc après comme je disais donc nous on a fait 3 ans qu'on bosse dessus et puis depuis un an qu'on communique sur notre projet d'économie circulaire Use It Again.
Voilà. Excellent.
Qui est donc pour revenir effectivement un peu au fil de l'histoire. Donc après avoir investi avec partenaires financiers dans le bateau, dans l'achat du bateau, le refit, donc le chantier du bateau en profondeur. Il y a eu un petit délai puisqu'il a fallu après moi trouver une autre partie de financement pour les frais courants de sponsoring pour pouvoir participer à des courses. Voilà.
Alors, t'as pas eu de connexion directe avec Hélène MacArthur sur ce projet?
Ah non, ouais, non, Hélène, je la connais, on a discuté du projet, mais Hélène, elle est complètement sortie de la voile justement après son tour du monde en solitaire en 2005 sur ce bateau-là. Et elle, comme elle est assez extrémiste dans tout ce qu'elle fait, elle voulait plus entendre, alors elle voulait plus apparaître, pas plus entendre parler de voile parce qu'elle est toujours amoureuse de bateaux et autres, mais elle voulait plus apparaître dans les projets de voile, de course et autres. Donc elle est plus du tout là-dedans. Et donc elle voulait pas. J'ai bien parlé du projet, elle était hyper contente, etc. Par rapport à son ancien bateau, d'une part.
Et là, j'imagine, il y a une dimension sentimentale.
Exactement, ouais. Et au projet d'économie circulaire en plus. Donc ça, c'est un hasard que je récupère que ce soit son ancien bateau. Mais non, elle n'est pas apparue sur le projet. Bon,
voilà. Par contre, tu as dû racheter le bateau, mais elle était encore propriétaire du bateau ou c'était encore...
Non, okay. C'est pas elle. C'est ça que j'ai dit que c'était un hasard, c'est que cet homme, il s'est passé entre les mains de deux propriétaires différents depuis elle. Et voilà, non, elle n'avait plus rien à voir.
Et par curiosité, mais qui rachète ce genre de bateau? Enfin, parce que...
Après elle, ça a été un team professionnel qui s'appelle le team Oman du pays.
D'accord. Oman. Pour genre des courses comme... la America's Cup ou des trucs encore différents?
Non, parce que ce n'est pas sur ces bateaux-là, mais... Non, c'est pour la formation de marins au large et pour développer la voile chez eux, que ce soit un outil d'éducation, mais surtout un outil aussi de promotion pour le territoire d'Oman, plus à titre de voilà niveau touristique.
D'accord, ok.
Donc, ils font tout un programme depuis 15 ans maintenant à peu près par la voile. Donc ils l'ont eu un moment, puis après ça a été en individuel et c'est à cet individuel, à cette personne qu'on a racheté le bateau. Voilà.
Ok, très bien. Je me demandais si tu avais justement des connexions, mais effectivement, j'étais persuadé que Hélène MacArthur t'avait fait plus que quelques soutiens oraux, quoi.
Ouais, malheureusement, non.
Ok. Venons-en à la course, quoi. Enfin, même si c'est pas directement lié à l'économie circulaire, enfin, Je vais pas te raconter, je vais pas te demander de raconter toute la course parce que, enfin, je pense que ça doit être une expérience complètement incroyable. Enfin, moi, je suis un piètre marin parce que dès que je vois plus la terre, je suis en, j'angoisse. Je sais pas pourquoi, c'est complètement irrationnel, mais j'ai l'impression de me retrouver perdu, tu vois. Donc, je sais même pas comment, comme ça seul, même sur un grand bateau de 23 mètres. Comment t'arrives à gérer tout ça? Et puis en plus, t'as pas été épargné par les tempêtes, quoi. Donc, comment ça s'est passé, quoi?
Alors, si tu permets, peut-être qu'avant, effectivement, un petit mot sur le bateau, parce que bon, voilà, nous, on a récupéré le bateau, et justement, il y a une étape importante, c'est effectivement le reconditionnement du bateau. C'est-à-dire que on a pu le faire, disons que on l'a fait pour promouvoir l'économie circulaire, certes, et puis dans un souci de réutiliser un maximum de matériaux, de matériel existant. Et ça, ce qu'on a fait, mais il y a eu beaucoup de choses quand même, il faut le dire les choses très honnêtement et de façon réaliste, qu'on pouvait pas faire, qu'on a été obligé d'utiliser du neuf, ne serait-ce que les peintures, les enduits, ces choses-là. Tout ça, on a dû tout refaire. Bah, ça, il n'existe pas aujourd'hui de peinture digne de ce nom, en tout cas
Oui,
assez
pour le milieu
qualitative pour
nautique.
Exactement. Mais après, sur du matériel comme des winches, comme des voiles, on a utilisé du matériel existant pour notamment des pièces détachées de gros winches, de choses comme ça. On essayait d'aller chercher à chaque fois ce qui existait, ce qui n'est pas évident parce que c'est des gros bateaux, c'est des grosses tailles, donc il n'y a pas ça chez le Chandler de la rue. Mais donc on a fait le tour, ça demandait pas mal de temps. Mais bon, l'un dans l'autre, on y passe beaucoup de temps. Maintenant, on peut trouver des produits, des pièces moins chères aussi. Mais le plus important, c'était de se dire que voilà, s'il y a du matériel qui n'est pas utilisé quelque part chez un confrère, on va dire dans une autre équipe professionnelle, bah, si nous, on peut voilà, continuer la durée de vie de ce matériel, c'est génial, quoi. C'était vraiment l'objectif. Et on a réussi comme ça. Bah, eux, ça leur a libéré de l'espace. Ça fait pas du matériel qu'ils pensent jeter au bout de quelques années parce que c'est stocké, stocké sans savoir quoi en faire. Et nous, bah, on a du matériel de qualité qui correspond à nos besoins. Donc, on a fait ça au maximum. Donc, sur les 8 voiles que j'ai à bord, j'en avais qu'une neuve. Bah, c'était la grand voile, mais j'étais obligé parce que la grand voile, c'est vraiment la voile qu'on ne peut pas remplacer par une autre pendant la course, et que l'ancienne était avec. J'avais quand même navigué avec l'ancienne, mais elle était vraiment trop abîmée et j'aurais jamais pu tenir jusqu'au bout de la course. Et en plus, quand on sait les conditions de météo qu'on a eues, j'aurais pas passé l'île de Wesson, ça c'est évident.
Et justement, tu l'as évoqué à l'instant, le regard de tes confrères, de tes, bon, je ne vais pas dire concurrents, parce que j'imagine qu'ils devaient avoir un regard peut-être plutôt bienveillant te concernant, comment ça se passait?
Oui, on a. Bah, c'est vrai que tout le monde se connaît dans ce petit milieu. En plus, dans notre classe, on était, tu l'as dit au début, que 6 bateaux. Non, je pense que le projet, il a été. Il y en a qui ont été plus ou moins. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles à ces sujets-là. Mais ils ont été plutôt bienveillants. Il y en a qui ont été vraiment, qui se sont donné du mal, voilà, pour voir effectivement comment ils pouvaient m'aider, ce quel matériel ils avaient. Donc, on avait toute une liste de matériel qu'on recherchait, voilà, et qui existait. Mais donc voilà, donc il y en a qui sont plus ou moins réceptifs, c'est un peu comme partout. Mais globalement, c'était plutôt positif, c'était plutôt sympathique. Et effectivement, en plus, au niveau performance, j'allais pas du tout sur leur terrain de jeu. Donc voilà, c'était un projet vraiment atypique et je faisais figure de petit poucet par rapport aux 5 autres qui, aux 5, on le rappelle, pouvaient se battre pour la victoire d'ailleurs, pouvaient tous les 5 gagner.
Avec le finish qu'on a vu en
Ouais,
plus.
exact. Ouais, voilà. Donc pour revenir effectivement à la course et à ta question, donc bah ça a été déjà bah une un exploit entre guillemets, en tout cas un défi d'être au départ de la course dans les temps, puisque je rappelle, tout ça s'est fait assez tardivement. On a trouvé notre partenaire Remade assez tardivement. Voilà, on a mis à l'eau août.
Excuse-moi, mais c'est des questions qui viennent comme ça. Pour qu'on ait un bon ordre d'idée aussi de l'exploit que tu as fait, parce que généralement, on dit que pour préparer ce genre de course, faut facilement penser à de l'étape, enfin de la course précédente pour la suivante, sachant que c'est tous les 4 ans. Enfin, c'est bien ça, non?
Oui, c'est ça. Alors, bon, 4 ans pour ce genre de projet. Alors, si tu as un projet avec une construction de bateau, donc là, ça prend beaucoup de temps. Effectivement, il n'y a pas trop de 4 ans parce qu'il faut concevoir, construire, mettre à l'eau, fiabiliser, naviguer. Donc là, effectivement, sur ces bateaux-là, bah, 4 ans, c'est bien. 3 ans, voilà, 3, 4 ans. Alors, moi, c'était différent, mais disons qu'il faut. idéalement, il faut quand même avoir le bateau, avoir au moins une saison dans les pattes avant de voilà, avoir toute la saison de navigation, d'entraînement avec un bateau prêt en condition course, quoi. Donc moi, le bateau existait, mais à partir du moment où il était refait de A à Z, il y avait quand même un temps de fiabilisation, etc., de préparation. Donc on a condensé tout ça au maximum, et effectivement tout s'est fait dans un timing très serré. Parce que donc la course était, le départ de la course était le 4 novembre, on devait être à Saint-Malo le 20, 22, un truc comme ça, 22, 25 novembre. Donc voilà, et auparavant, il avait fallu faire sa qualification pour fin septembre, je crois, et on a mis à l'eau le bateau le 31 août, 1er septembre. Donc c'était super chaud. Donc là, on n'avait pas le droit à l'erreur sur les choix des matériaux, sur tout ça. Donc j'ai fait des navigations. Je suis parti assez vite en navigation de qualification, donc où l'organisation demande de qualifier le bateau et le bonhomme dessus. Donc ça s'est fait dans un temps record, et donc j'étais qualifié au bout de quelques semaines, mais ça veut pas dire que j'avais tout l'entraînement qu'il fallait. Donc la qualification, c'est un grand parcours de 1200 milles nautiques. Donc selon les bateaux et le vent, voilà.
Donc à peu près 2000-2400 kilomètres à peu près.
Ouais, c'est ça exactement. Et 2300 kilomètres. Et puis là on doit aller à la rencontre de vents assez soutenus pendant une bonne partie du parcours. Donc c'était assez chaud.
Ça te donne un bon aperçu de ce que tu vas affronter dans l'Atlantique, quoi.
Ouais, exactement. En même temps, c'est chaud parce que moi c'était le timing, quoi, qui était chaud, mais c'était important d'y aller. Hein. Moi j'étais ravi de le faire, il fallait le faire. Et d'ailleurs j'y suis retourné dans ces conditions difficiles plus tard, deux trois semaines après. Mais l'objectif, de toute façon, c'était d'engranger un maximum de jours de navigation avant le départ de la course le 4 novembre. Donc je suis arrivé à Saint-Malo qualifié avec un bateau. Assez près, on va dire, que j'estimais près, et donc en même temps pour voilà, c'est pas non plus, je reviens là-dessus, c'est pas non plus le bateau le plus extrême. C'est un bateau qui a été conçu pour faire le tour du monde en solitaire pour Ellen MacArthur à l'époque. C'est pas les options architecturales les plus extrêmes. En plus, tout ça a très évolué depuis, avec l'histoire de foil, de bateaux qui volent à moitié ou un peu plus. C'est important de le dire. Donc certes, il y a la difficulté de mener un trimaran. Un trimaran, ça se retourne. Il y a ce risque-là toujours, mais il est moindre que sur d'autres bateaux, quoi. Parce que c'est un bateau, encore une fois, fiable et d'une part, et pas trop poussé, c'est-à-dire qu'il y a un rapport poids-puissance qui n'est pas le plus extrême. Mais ça va quand même très vite, on peut se faire des frayeurs et il faut être vigilant.
Alors attends, en plus, tu disais 23 mètres de long,
oui.
mais en hauteur, on est sur une sorte.
À 30 mètres, un mât de 30 mètres et 16 mètres de large.
Donc l'équivalent d'un immeuble de 8 étages, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est quand même... ouais. Enfin, quand tu te retrouves à côté de ces bateaux-là, enfin, t'hallucines quand même. Enfin, te dire en plus que tu vas être tout seul.
Ouais, c'est vrai. Il y a de la surface. Ouais. Ah ouais, non, c'est les immeubles sont longs. Hein. Ouais, je te confirme.
Ouais, et puis en plus si tu dois aller réparer des trucs sur le mât et tout, enfin.
Ouais. Bah ça c'était un peu ma hantise. J'ai pas eu à y aller. Bon, j'avais aussi prévu des choses. Pour éviter de devoir y aller au maximum. Et de temps en temps, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai qu'en solitaire, ça c'est quand même la partie la plus périlleuse d'aller en solitaire, de monter dans son mât, c'est pas très sympa. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a des risques effectivement de se faire projeter sur le mât, etc. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Donc ça, j'ai pas eu à le faire heureusement, mais j'ai eu mon lot de galères techniques.
Venons-en en fait, parce que franchement, évidemment, bon, comme c'était pas ton objectif, on sait que t'es arrivé donc sixième sur six, mais
dans le quatrième sur six.
Oui, mais parce que malheureusement, il y a eu deux abandons dans la catégorie.
Ouais, exactement.
Du fait justement que les bateaux étaient peut-être pas assez préparés ou justement trop. Trop short, non ?
Ouais, en fait, c'est plutôt, on va déjà parler des conditions météo qui étaient radicales. Les observateurs disent que c'est effectivement la route du Rhum la plus extrême qu'il y ait eu depuis sa création en 78. Donc on a été effectivement soumis à une mer très très forte dès le début. Donc on avait des creux de 8 à 10 mètres. Donc là, on est sur trois étages à peu près, donc c'est quand même pas mal.
Je sais pas s'il l'a fait finalement, mais je crois que c'est Loïc Perron qui disait, mais moi je crois que je vais m'arrêter à Brest tellement la tempête qu'ils annonçaient sur les premiers jours était hyper violente. Enfin, ouais. Ils n'avaient jamais vu ça, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, on a eu une grosse tempête. Mais en fait, c'est surtout le vent, c'est une chose, et surtout la mer qui va avec, quoi. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a eu, ça soufflait sur l'Atlantique Nord depuis un moment, et donc les dépressions traversent l'Atlantique Nord, donc en gros du Canada à l'Angleterre, on va dire ça. Donc nous, on est sur le trajet après l'Angleterre en même temps. Et donc voilà, la mer n'est pas freinée. Donc si des dépressions s'enchaînent, ben elles creusent une mer de plus en plus forte. Et c'est ce qu'on a eu à la sortie de la Manche. Donc on a été voilà des Dès la première nuit, on commençait à avoir beaucoup de mer, et puis le lendemain, au bout de 24 heures, on a eu, ça a été, voilà, le vent, un vent très violent est venu, et soudain. Donc plus c'est soudain, plus c'est violent et difficile à gérer, en plus de la mer, quoi. Voilà.
Et quand tu dis que la mer se creuse, on est sur des crues de combien de mètres surtout?
Donc je disais 8-10 mètres, quoi.
Ah, c'est juste incroyable. Même si ton bateau est vachement plus grand, j'imagine tu dois avoir des sacrées surfaces, toi.
Ouais, alors maintenant c'est pas 10 mètres qui te tombent dessus comme un bloc de béton,
Bien sûr.
mais c'est pas non plus la longue houle qu'on peut retrouver dans les mers du Sud, au milieu de l'Atlantique, etc., quoi.
En fait, si je comprends bien, les longues houles font que tu vas monter de façon linéaire et redescendre comme ça, mais là, c'est plus des murs finalement que
Ouais.
tu vas devoir affronter, traverser, quoi.
Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça. Donc en fait, ça fait ça, voilà, donc le matériel est. Bon, le marin, on n'en parle même pas. Je pense que les trois quarts de la flotte étaient malades. Moi, je suis très malade en mer aussi. Donc là, on se nourrit pas et tout, c'est un peu l'enfer. Et en plus, faut gérer le matériel, le bateau, faire, etc. Donc c'est un petit peu. Ça a été une première semaine très très éprouvante. Ouais. Donc
Ouais, et puis gérer le sommeil aussi.
ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, on dort pas beaucoup parce que c'est une zone de trafic. Quand je dis pas beaucoup, c'est par tranche, bah, sur ces bateaux-là, entre 2 minutes et 15 minutes, quoi. Voilà. Quand il y a 15 minutes, ça commence à être, c'est quand déjà il y a plus trop de monde autour, quoi. Parce que vu les vitesses, quand t'es à 30 nœuds, bah, 30 nœuds, 15 minutes, je suis pas très bon en calcul, mais t'as déjà fait 15 bornes, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Un peu plus. Donc ça va vite, quoi. Quand tu dors pendant 15 bornes, pendant 15 km en voiture, tu peux rencontrer du monde, quoi.
Oui, et puis paradoxalement, c'est pas la nuit qu'il faut dormir parce que tu as encore moins de visibilité et donc faut plutôt privilégier de dormir le jour, j'imagine.
Ouais, alors ouais, effectivement, il y a de ça, mais quand même, aujourd'hui, on a des outils qui permettent, voilà, de repérer des bateaux, des objets, pas des objets, mais des côtes, etc. Donc les bateaux, c'est les navires marchands, c'est les pêcheurs, c'est les autres concurrents. Et puis voilà, donc on a des systèmes d'alarme sur l'ordinateur qui permettent de biper. Donc on calibre ça en disant, bah voilà, s'il y a un bateau qui est à moins d'un mille de mon bateau, bah je veux que ça sonne, qu'il y ait une alarme qui se mette en route, par exemple, des choses comme ça. Voilà, donc ça bip tout le temps parce qu'entre ça, les alarmes de vent, de vitesse, c'est un peu l'enfer.
J'imagine. Et donc, ouais, justement, enfin, alors, déjà, bravo parce que tu as réussi. Alors, tu es arrivé quelques semaines après, évidemment, les premiers, quoi. Mais,
Ouais.
enfin, qu'est-ce que tu ressors de cette expérience-là qui doit être, mais juste incroyable parce que, enfin, il y a quasiment personne dans le monde qui fait ce genre de choses, quoi.
Oui, bah ouais, effectivement, il n'y a pas beaucoup de fêlés comme nous les Français à faire ce genre de trucs. Non, mais déjà sur la course, voilà, il y a eu un tiers de la flotte qui a abandonné. Moi, j'ai fait une escale de 6 heures seulement à La Corogne, mais bon, j'ai dû me dérouter pour y aller, etc. Là, j'ai retrouvé deux bateaux de ma classe, deux gros bateaux qui étaient un explosé, l'autre, on savait pas s'il allait repartir ou pas. Donc des bateaux très préparés, au budget important.
Il y avait Armel de Cléache, non, qui
Non,
était.
alors lui, il avait déjà chaviré.
Ah ouais, putain.
Lui, il avait déjà chaviré, mais il y avait Tim Edmond de Rothschild, Sébastien Josse, qui lui a explosé un flotteur. Allait très très vite, c'est le bateau, quasiment le bateau le plus rapide de la flotte. Il allait très très vite, et la mer, justement, d'en parler, a explosé un de ses flotteurs. Donc là, il s'est arrêté le truc en chou-fleur complet. Il a eu de la chance de pas démater d'ailleurs. Voilà. Donc il était arrêté, lui, il pouvait pas repartir. Et il y avait Sodebo de Thomas Coville. Et lui avait, pareil, la mer avait bien abîmé ses coques, on va dire ça comme ça, son carénage. Et donc, ils savaient pas s'il allait repartir. Donc moi je suis arrivé, ils étaient déjà là, en train de bricoler, les équipes techniques. Moi, j'ai eu deux personnes qui sont venues m'aider. J'avais de la petite préparation entre guillemets par rapport à eux, mais nécessaire pour traverser l'Atlantique de façon sereine. Et là, quand je suis reparti, eux a priori devaient pas repartir. Et puis finalement, Sodebo est reparti. M'a redoublé derrière. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu après une très grosse casse. C'est une petite pièce, mais où j'ai failli perdre mon bras, failli démater, donc, puisque c'est un câble qui retient le mât, qui a l'attache du câble qui retient le mât qui a cassé. Et ça peut être un dématage instantané, quoi. Donc là, j'ai dû m'arrêter ou presque ou ralentir très fortement pendant 48 heures. Il y a eu des ingénieurs et architectes qui ont calculé effectivement ce qu'on pouvait faire comme réparation. Donc j'ai bricolé, j'ai fait tout mon truc, on a réussi à trouver une solution, mais ça m'a empêché de naviguer en pleine possession de mes moyens avec ma surface de voile totale sur tous les ce qu'on appelle les tribords à mur quand je recevais le vent de la droite, quoi. Ce qui est 80% du temps sur une transat. Donc dommage pour moi, c'était sur le mauvais bord. Mais donc c'est pour ça que j'ai mis 3 semaines alors que mon temps espéré aurait pu être de 2 semaines, quoi. Voilà. Donc pu viser une troisième place du coup vu ce qui se passait, mais il y a ce débo qui m'a redoublé
Oui, mais c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes objectifs, mais déjà c'est magnifique d'avoir pu finir ça, parce que effectivement tu l'as dit, un tiers de la flotte a dû abandonner
sur 125,
et surtout mine de rien arriver en vie, parce que c'était presque bien, quoi.
Ouais, c'est clair. Non, mais voilà, c'était une réussite dans le projet. C'était par rapport au timing, à mon budget, etc. C'était arriver de l'autre côté, prouver que voilà, parler de l'économie circulaire, prouver que on peut avancer dans l'économie circulaire, que voilà, la réutilisation, le réemploi, ça fonctionne. Et donc voilà, et je considère ça comme une première étape de notre projet Use It Again. Donc je suis très, ça c'est des discussions de bistrot. Après, on peut refaire l'histoire 20 fois, la course 20 fois, mais mon objectif personnel sur ce projet il est atteint, donc il n'y a pas de problème, quoi, avec ça.
Non, et puis en plus tu as prouvé encore une fois que le reconditionnement, la réutilisation, c'est souvent plus fiable, parce que bah il y a peut-être, tu as mis peut-être de meilleurs matériaux, ouais, de la meilleure qualité, ouais, pour le reconditionnement, ouais, plutôt que de refaire tout à neuf au plus rapide, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors voilà, après bon, c'est toujours un discours, faut être très tempéré. C'est sûr que aujourd'hui on peut pas faire la meilleure Formule 1 avec du carbone recyclé, hein, ça c'est clair. Mais faut tendre vers ça, et on peut, et il y a des avancées à faire. C'est comme toutes les industries. Ce que je dis, c'est que moi, ce que nous on a fait à notre échelle, on veut influencer les industriels pour le faire à la leur. Et je pense qu'à partir de, c'est vraiment l'objectif. Il faut que les gros industriels, c'est-à-dire les gros consommateurs, les gros producteurs, les gros pollueurs, hein, forcément. On va dire c'est je ne leur jette pas la pierre, mais il faut que eux avancent, prennent conscience de ça, et par ce genre de projet, on prouve qu'on peut avancer. Donc oui, ça nécessite de se remettre en question, de changer ses habitudes, de changer sa façon de faire, ses modes de production, ses modes de design d'abord, bien sûr, mais il faut aller de l'avant. Et c'est tout ce qu'on a voulu démontrer avec ce projet Use It Again.
Mais bravo. Et alors justement, tu as commencé à évoquer, ça c'était finalement la première étape de Use It Again, enfin la première grosse, majeure étape, disons.
Ah ouais.
Et c'est quoi les prochaines, finalement?
Alors effectivement, là c'était la première étape, donc parler d'économie circulaire. Donc après, on a la deuxième étape maintenant, c'est de continuer. D'abord, c'est vraiment le double aspect, la double facette. Continuer à faire naviguer le bateau, l'améliorer, toujours dans cet esprit d'économie circulaire, et naviguer à l'étranger. Donc le côté international est essentiel, puisque c'est un sujet planétaire, hein, c'est sûr. Donc il y a cet aspect-là, et puis on voudrait qu'à chaque fois qu'on se déplace avec le bateau, qu'on va participer à une course ou se mettre ou aller sur un parcours de record, des choses comme ça, on puisse parler d'économie circulaire. Donc pour cette année, on essaye de mettre en place un petit tour de l'Europe de l'économie circulaire, en allant en Angleterre, puis en Méditerranée, en passant par le Portugal, l'Espagne. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. Donc Remail va nous suivre, mais ça suffit pas. On cherche encore des partenaires. Donc avis aux amateurs, mais donc que ce soit les sponsors qui veulent la visibilité ou des mécènes à travers le fonds de dotation, et donc c'est le côté informatif éducatif, parce que je rencontre aussi pas mal d'écoles où je participe à des conférences, Donc ça, c'est important. Et d'un autre côté, donc, voilà, continuer à prouver que performance et circularité peuvent faire mon ménage. Voilà. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on se base, Et puis comme il n'y a pas de grosses courses cette année, donc je parlais effectivement de, c'est plutôt des courses en équipage. L'année prochaine, je vais essayer de mettre en place une campagne de record en solitaire avec un ou deux records que j'aimerais faire et aller plus vers le Pacifique, traverser l'Atlantique à nouveau, aller vers les États-Unis et aller après peut-être vers la Chine. Voilà, on va voir. Il y a pas mal de projets et faire bouger le bateau et y continuer à naviguer.
Bravo, franchement, c'est génial. En plus, c'est top d'avoir aussi cette dimension circulaire qui n'aurait pas forcément... Enfin, c'est un des rares sports où la dimension matérielle elle est quasi fondamentale, quoi. Et de justement pouvoir mettre en avant cet aspect-là, c'est top, quoi.
Ah ouais. Non, bah, c'est sûr que bah, c'est un sport mécanique, hein. C'est pour ça qu'on parle, souvent comparé à la Formule 1 ou autre, hein, mais je veux dire, on est complètement là-dedans. Moi, je dirais que c'est plus, ça va très vite. Alors, on pense à Formule 1, mais c'est plus du Dakar, quoi. C'est vraiment, faut aller vite, mais dans des conditions scabreuses, quoi. C'est vraiment ça. Donc, c'est l'extrême complexité des bateaux de course au large. C'est qu'aujourd'hui, ils atteignent des vitesses incroyables et en même temps, bah, c'est cet élément liquide hyper compliqué qui évolue tout le temps et puis le vent, voilà. Donc, c'est passionnant mais voilà, ça nécessite beaucoup de grosse fiabilité. Là.
Ok. Et on a une petite tradition dans le podcast, mais je sais pas comment ça pourrait s'appliquer à toi, mais si tu avais trois conseils à donner à des gens qui veulent se lancer dans l'économie circulaire, peut-être plus dans la voile finalement, dans le secteur nautique, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour faire en sorte que bah ça ait plus de sens, quoi.
Alors d'abord, je dirais ça c'est plus peut-être le côté entrepreneur, mais je dirais qu'effectivement faut aller au bout de ses idées, faut pas hésiter à pas hésiter, tout est mesuré, mais il faut vraiment croire à ses idées, à son envie d'y aller, parce que je pense que c'est la motivation personnelle qui fera que on ira, on avancera dans les projets, et finalement quelque chose qui semblait irréalisable peut l'être si justement on a une très forte motivation. Bon, je l'ai prouvé avec ma route du Rhum, mais il y a pas grand monde qui me donnait qui misait sur moi à l'arrivée en Guadeloupe. Donc ça c'est une première chose. Et justement, si ce sont des projets pour avancer dans l'économie circulaire, c'est encore mieux parce que on sait avec ce sujet-là qu'on fait bouger les lignes. Ensuite, je pense que il y a une notion à laquelle je suis assez attaché, c'est que bon, on a parlé des grands industriels, des grands producteurs, etc., des grands pollueurs, certes, mais il n'y a pas que. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous un rôle à jouer au niveau individuel. Ça, c'est tout l'esprit colibri. Mais on peut tous être influenceurs aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler avec les enfants quand je rencontre des enfants dans les écoles. C'est qu'effectivement, la prise de conscience de la sauvegarde de notre environnement est une chose. Mais après, je leur dis souvent d'aller en parler. Je dis souvent aux professeurs déjà de continuer à en parler sur l'année. Soit pas un one shot, on va dire, avec l'expérience d'un marin, mais d'en parler à la maison, voilà, et de parler avec leurs parents de ce qu'ils peuvent faire, etc., de leur mode de consommation, parce qu'effectivement l'économie circulaire, ça commence par une consommation réduite et intelligente et raisonnée, et donc ça c'est vraiment important. Donc le rôle individuel est très fort. Et d'autant que on ne doit plus attendre tout des politiques, voilà, etc. Donc des autres, quoi. On a tous une responsabilité. Donc ça, c'est effectivement la deuxième chose. Et puis la troisième, c'est effectivement être le plus créatif possible. On parlait de design, le design circulaire. Et aujourd'hui, c'est pas oublier que voilà, derrière chaque objet, il y a des gens qui réfléchissent à ça. Il y a une conception, il y a un produit qui va être mis sur le marché. Et ça, c'est essentiel de se dire que ça tout commence là, quoi. Dès qu'on va commencer à bouger, à ouvrir son ordinateur pour être à la base d'un projet, que ce soit un produit ou un service d'ailleurs, derrière il va y avoir un impact environnemental. Et donc il faut être créatif, et à la fois être créatif et penser à son impact final dès qu'on va mettre quelque chose en place. Nous, on essaye de. Je parlais tout à l'heure de notre événement autour de Belle-Île. Ça fait 10 ans qu'on l'a mis en place, et là on le change radicalement cette année. Bon, je peux pas trop en parler là parce que c'est pas encore annoncé, mais bon, la course de voile restera la même, hein, ça, mais à peu près. Mais après, voilà, tout notre impact, on veut vraiment bouger sur tout notre impact environnemental qu'on fait sur un événement. Donc l'événementiel, bah, c'est très éphémère, c'est beaucoup d'énergie, de consommation, de consommable sur un temps très court. Et ça, on se bat contre ça déjà depuis pas mal d'années. On fait au mieux. Et là, on passe encore une étape. Donc même dans notre business qui est mis en place, on peut faire évoluer les choses. Et c'est ce qu'on essaye aussi de montrer à travers notre événement. Donc voilà, la créativité. Et la responsabilité par rapport à la création, à la production de biens et services, je pense, est très importante.
Excellent. Ben, un grand merci, Romain. Et si des gens veulent te contacter, que ce soit pour justement le tour de Belle-Île ou même pour sponsoriser Use It Again, comment ça se passe?
Bah alors, qu'il n'hésite pas. D'abord, on a notre site internet remedusitagain.fr. On est sur Instagram et Facebook, bien sûr. Donc, likez, suivez-nous et on met pas mal de nouvelles pour suivre l'aventure du bateau, du marin, de l'équipe. Voilà, donc c'est assez sympa. Après, voilà, ils peuvent rentrer en contact avec nous, bah, via le site, via le mail agence@eol-sport.com, ou moi sur LinkedIn. C'est assez simple, Romain Pilliard. Et puis voilà quoi. Et puis après, voilà, tout ce qui est partenariat, bah, ça se fait à travers du mécénat ou du sponsoring. Et on fait généralement du sur-mesure pour que tout le monde soit content. Et généralement, ça se passe bien.
Bah, parfait, encore bravo Romain, franchement moi je suis super admiratif, enfin je trouve ça dingue quoi. Donc
Merci, Julio. Et puis, il faudra venir voir le bateau en Bretagne maintenant.
bah oui, maintenant que je suis basé à Nantes, avec grand plaisir quoi. Et puis même le tour de Béguet ça me plaît parce que j'aime beaucoup cette île quoi. Donc
Ah oui, c'est pas loin.
je t'avoue qu'avant d'en savoir plus sur toi, je connaissais pas la compétition, par enfin, l'événement tout du moins. Donc avec grand plaisir.
Un rendez-vous le 18 mai, alors, avec plaisir.
Génial. Un grand merci à
Merci
toi.
beaucoup.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.